Découverte, c'est le créneau que la RTB2S met à la disposition de tous ceux qui sont auteurs d'actions à même de booster le développement du Gloumou, la région de l'Est. Pour le rayonnement et la mise en valeur de vos actions, passez nous voir tous les samedis matins à partir de 6h30. Ceci dit, auditrices et auditeurs, je suis Nazé Ouattara et je vous amène à la découverte de l'Agence de l'eau du Gourmand. Et pour parler des actions de l'Agence de l'eau, je reçois donc pour cet entretien le directeur général, ingénieur hydraulicien de formation, M. Juscelin Anselme Kabore. Bonjour.
Bonjour, M. Ouattara.
Il est accompagné sur notre plateau de son collègue technicien supérieur en hydrologie, M. Ouseni Ouedraogo, bonjour.
Bonjour, monsieur Ouattara.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, monsieur le directeur général, on sait que vous êtes passé par le Nankambé. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience qui a peut-être prévalu à votre nomination à la direction générale de l'Agence de l'eau du Gourmand?
Avant d'être nommé directeur général de l'Agence de l'eau du Gourmand, j'ai d'abord occupé la fonction de directeur de l'eau et de l'environnement au niveau de l'Agence de l'eau du Nankambé. L'Agence de l'eau du Nankambé est la première agence qui a été mise en place au niveau du Burkina. L'expérience que nous avons capitalisée à ce niveau, je pense, a contribué à ce que nous soyons responsabilisés pour l'Agence de l'eau du Gourmand.
Alors, qu'est-ce qu'une agence de l'eau?
Une agence de l'eau peut être définie comme la structure de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau au niveau d'un bassin versant hydrographique. L'Agence de l'eau est le résultat de la refondation du cadre institutionnel de gestion de l'eau. Bien sûr, il y a d'autres structures qui ont été mises en place, mais l'une des structures phares de cette approche de gestion intégrée des ressources en eau, là, c'est l'Agence de l'eau.
Bassin hydrographique, qu'est-ce que c'est?
Le bassin versant hydrographique peut être défini par l'espace qui est drainé par un cours d'eau et l'ensemble de ses affluents.
Dans la définition de l'agence, vous avez parlé de gestion intégrée des ressources en eau. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela?
Gestion, c'est la gestion. Maintenant, intégrer, c'est l'intégration de l'ensemble des usages et des usagers. D'une manière un peu plus rigoureuse, il y a plusieurs définitions qui sont données au niveau international pour définir l'AGIR, gestion intégrée des ressources en eau. L'AGIR est un processus qui favorise le développement et la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources connexes, et cela en vue de maximiser de manière équitable le bien-être économique et social en résultant. Et cela sans vraiment compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. Donc cela, c'est la définition un peu académique qu'on peut donner au mot gestion intégrée des ressources en eau. La gestion intégrée des ressources en eau est une traduction au niveau du secteur de l'eau, des principes du développement durable, qui veut que pour toute forme de gestion, il faut par notre gestion être capable de répondre aux besoins en eau des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins en eau.
L'eau, à votre niveau, est une valeur économique. En quoi l'eau peut avoir une connotation économique?
La manière dont nous percevons la ressource en eau est à l'origine de tout ce qu'on a comme problème autour de cette ressource-là. Parce que pendant très longtemps, l'eau a été perçue comme un don de Dieu. Et traditionnellement, dans nos sociétés, quand on arrive dans une famille, dans un milieu, on est accueilli d'abord avec de l'eau. Toujours traditionnellement, et ce n'est pas uniquement au Burkina, là où vous partez, souvent, il est absolument interdit de vous vendre l'eau. Tout le monde a droit à l'eau. L'eau, c'est la vie. Même les grandes religions ont parlé de ça. Vous prenez le cas de l'islam, vous prenez le cas du christianisme. L'eau est perçue comme un don de Dieu qui est disponible en abondance. C'est cette perception qui a fait que pendant longtemps, on a gaspillé l'eau sans se rendre compte que l'eau est un bien économique. Pourquoi l'eau est un bien économique? Parce que l'eau entre dans la plupart de nos activités économiques. Vous ne pouvez rien faire en tant qu'homme dans une de vos activités sans avoir besoin de l'eau. Les gens conçoivent facilement payer pour certains droits, mais ils ne conçoivent pas payer pour le droit à l'utilisation de l'eau. Et cela est à la source du gaspillage, parce qu'on le dit d'une manière un peu vulgaire, quand quelque chose n'a pas de prix, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Et pour que l'eau soit bien perçue dans toutes ses dimensions, c'est pour ça qu'on dit l'eau a une valeur économique. Vous ne pouvez pas être industriel, vous ne pouvez pas produire de l'or, vous ne pouvez pas faire l'agriculture sans utiliser l'eau, vous ne pouvez pas faire l'élevage sans avoir un point d'eau.
En tout cas, le gouvernement du Burkina Faso l'a compris, comme vous l'expliquez, depuis les années 1995. C'est pourquoi aujourd'hui la référentielle en matière de gestion d'eau, des ressources en eau, et on parle de gestion intégrée. C'est tout ce qui a amené le Burkina Faso à subdiviser ses ressources en eau en 5 agences de l'eau. Monsieur Ousseini Ouédraogo, l'agence du Gourouma, depuis quand existe-t-elle?
L'agence de l'eau du Gourouma existe depuis le 24 janvier 2011. En effet, c'est avec la signature de sa convention constitutive le 24 janvier 2011, ici même à Fadam Gourouma, que l'agence de l'eau du Gourouma a vu le jour. Et à la signature de sa convention, on avait l'État qui était représenté par deux ministres, à savoir le ministre chargé des Finances et le ministre chargé de la question des ressources en eau. Il y avait également les présidents des conseils régionaux qui partagent l'ensemble de l'espace de compétences qui représentait les collectivités territoriales dans la signature de ces documents.
Vous avez parlé de la présence lors de la signature de la convention des présidents de conseils régionaux. Est-ce que ça veut dire que l'agence du Gourouma ne se limite pas à la province du Gourouma et va au-delà?
L'agence de l'eau du Gourouma s'étend sur des parties de 5 régions. On a la région de l'Est, on a la région du plateau central, on a la région du centre-est, on a la région du centre-nord et la région du Sahel. Il y a des parties de ces régions-là dont le ruissellement des eaux font partie de ce qu'on appelle l'unité hydrographique du bassin.
Vous avez parlé d'unité. Comment on arrive à délimiter une agence d'eau?
Bon, il faut dire qu'au niveau du territoire national, hydrographiquement, on a 4 bassins versants nationaux, à savoir, on a le bassin versant du Nakambe, on a le bassin versant du Mouhoun, le bassin versant de la Komowé et le bassin versant du Niger, qui regroupe les affluents du fleuve Niger au Burkina Faso. Maintenant, pour passer de ces 4 bassins versants nationaux aux 5 espaces de compétences, on a d'abord les critères hydrologiques qui a été retenu comme premier critère. Mais au-delà de ces critères hydrologiques, il ne faut pas ignorer les comportements, les modes de vie des groupes ethniques qui existent sur notre territoire national. Donc c'est avec les critères hydrologiques associés aux critères socio-culturels qui a prévalu à la subdivision du territoire national en 5 espaces de compétences de gestion dénommés agences de l'eau, parmi lesquels on a l'agence de l'eau du Gourouma.
4 bassins, on a 5 agences, ça veut dire qu'il y a un bassin qui compte 2 agences alors.
L'agence de l'eau du Gourouma se situe entre 2 bassins versants nationaux. On a la partie bassin du Nakambe, en l'occurrence le sous-bassin de la Kompianga, une partie du bassin national du Niger, qui ont été regroupés pour constituer l'espace de compétence de l'agence de l'eau du Gourouma.
Monsieur le directeur général, c'est vrai qu'on a parlé un peu des agences, mais principalement l'agence du Gourouma. Quelles sont ses missions?
Il a été dit qu'une agence de l'eau a pour objet principal de valoriser le bassin versant hydrographique comme cadre approprié de connaissance d'abord, parce que pour gérer une ressource, il faut la connaître. Ensuite, de planification et de gestion des ressources en eau. Et comment on va faire tout cela? On va développer la connaissance, la planification et la gestion. C'est à travers la coordination et la concertation entre les différents acteurs usagers qui se trouvent au niveau de cette agence de l'eau-là. Pourquoi on fait tout cela? Pour finalement aboutir à ce que les décisions politiques qui sont prises au niveau national sur les ressources en eau soient mises en œuvre de façon optimale et rationnelle. Donc là, c'est la mission principale de toute agence de l'eau au Burkina. Pour pouvoir mettre en œuvre cet objet principal-là, il y a un certain nombre de missions qui ont été dévolues aux agences. Il y a 8 en tout. La première, d'abord, c'est engager les acteurs à la gestion concertée. La deuxième mission, c'est à traduire à travers ce qu'on appelle les schémas directeurs d'aménagement et de gestion, les orientations de la politique nationale de l'eau. Le schéma directeur est un document qui permet de planifier pour un certain temps la gestion de la ressource en eau. Comme troisième mission, nous avons la promotion de l'utilisation rationnelle des ressources en eau. Comme quatrième mission, nous avons la mise en œuvre de ce qu'on appelle le principe PP, pollueur-payeur, préleveur-payeur. Cinquième mission, il s'agit pour l'agence d'apporter des aides, des appuis financiers à tout ce qu'il y a comme action d'intérêt commun dans son espace de compétence. Quand les gens ont de bonnes pratiques, voilà, l'agence peut appuyer ces bonnes pratiques-là. Également au niveau de l'assistance technique également, s'il y a des actions d'intérêt commun qui ont lieu dans l'espace de compétence, l'agence peut appuyer ces actions d'intérêt commun-là d'une manière technique. Comme autre mission, il s'agit pour l'agence de développer et diffuser les connaissances sur les ressources en eau, parce qu'on ne peut rien gérer si on ne connaît pas. Et enfin, il s'agit pour l'agence de développer des partenariats avec tout organisme qui intervient dans son domaine de compétences, que ce soit au niveau local ou bien au niveau international.
En voyant ces missions, nous savons qu'au niveau national, il y a un ministère qui s'occupe des questions d'eau, qui est déconcentré dans les différentes régions et souvent même dans des provinces. Est-ce que ces missions-là ne peuvent pas être portées par ces directions régionales? Parce que souvent, au niveau des populations, on voit des agences comme des structures de trop.
D'abord, pour introduire, je dirais qu'il faut percevoir l'agence de l'eau comme la structure qui est venue fédérer l'ensemble des usagers de l'eau. Parce que les différents ministères dont vous avez parlé là, c'est des usagers. Vous avez parlé du ministère de l'environnement, voilà. Vous allez parler du ministère des mines qui utilise l'eau. Vous avez parlé du ministère de la santé qui utilise l'eau. Vous avez parlé de la direction régionale de l'eau, par exemple, qui utilise l'eau. Vous allez parler de l'ONEA qui utilise également l'eau. Ce sont des usagers particuliers et chacun met en œuvre une stratégie particulière pour mobiliser la ressource en eau pour l'utiliser. Nous, nous sommes là pour fédérer l'action de l'ensemble des usagers là, pour coordonner de telle sorte que l'action d'un usager ne puisse pas nuire à un autre usager. Ça, c'est la première chose. Coordonner l'action de l'ensemble de ces usagers là, deuxièmement, de telle sorte que la ressource en eau soit toujours disponible en quantité et en qualité pour l'ensemble des usagers. Aucune institution qui existe, aucun ministère qui existe ne peut avoir cette prérogative-là.
Voilà ce qui éclaire nos auditeurs. Vous avez tantôt parlé de pollueur-payeur, préleveur-payeur. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Il faut dire que le principe pollueur-payeur et préleveur-payeur, l'une de nos missions qui nous amène à être rapidement visibles, surtout au niveau des professionnels de l'eau, des acteurs. Parce que ce principe-là soumet désormais l'utilisation de la ressource en eau au paiement d'une taxe. Donc, ce principe-là a été mis en place pour que chaque acteur qui utilise la ressource en eau, au-delà d'un certain seuil, puisse, comme il se doit, contribuer à la gestion de la ressource. Parce que l'eau, c'est un, comme on l'a dit, un bien économique, c'est un bien qui est fragile. Dans nos cultures, dans nos coutumes, il est de tradition à ce qu'on perçoive que tout ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Avec ce principe-là, il n'est pas du devoir du gouvernement seulement de travailler, par exemple, à lutter contre la pollution. Si vous êtes un industriel, vous polluez l'eau, par exemple avec le principe pollueur-payeur, vous payez quelque chose qui va permettre au gouvernement de dépolluer l'eau pour l'ensemble des usagers. Également, si vous êtes un préleveur, une entreprise qui travaille, y a des barrages qui ont été construits, vous venez avec vos camions, vous puisez l'eau, vous partez travailler, c'est de l'argent qui a été investi pour mobiliser cette ressource-là.
Vous avez parlé des taxes. Est-ce que c'est en fonction de la quantité d'eau qu'on prélève, qu'on paye, ou tout simplement c'est juste une taxe symbolique?
Tout sauf le symbolisme. Parce que le symbolisme n'est pas souvent utile au-delà du symbole. Avant de continuer, je dois préciser que pour le moment, c'est le principe préleveur-payeur qui fait l'objet du texte d'application. Le principe pollueur-payeur n'a pas encore de décret d'application. Il y a des seuils. Dans votre maison, vous n'allez pas payer cette taxe-là parce que la consommation d'eau domestique n'est pas soumise à la taxe. C'est ceux qui utilisent l'eau au-delà d'un certain seuil qui sont soumis à cette taxe-là. Parce qu'on se dit qu'au-delà d'un certain seuil, quand vous prélevez l'eau, ce n'est plus pour vos propres besoins, mais c'est pour des activités économiques. Et ce seuil a été fixé à 100 litres par jour. Si vous dépassez 100 litres par jour, il y a des usages qui ont été déjà réglementés. Par exemple, pour les miniers et le secteur industriel, il faut payer 200 francs le mètre cube. Pour les entreprises de BTP, c'est 80 francs le mètre cube d'eau prélevée. Les entreprises d'eau potable, c'est 1 franc le mètre cube d'eau.
Certainement que vous rencontrez des couacs avec les usagers. Est-ce que les populations arrivent à vous comprendre sur le prélèvement de ces taxes-là?
Il y a un principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Comme vous le dites si bien, au niveau des gros préleveurs, il y a quand même certaines réticences. je dois dire même beaucoup de réticence, parce que les gens n'arrivent pas à changer leur perception de la ressource en eau. On est habitué à puiser l'eau, comme je le disais tantôt, gratuitement, alors qu'on oublie tout l'effort de mobilisation que l'État a mis en place pour mobiliser cette ressource-là. Deuxième problème que nous avons, il y a certaines collectivités qui avaient mis en place, en parlant de collectivités, je parle des mairies, qui avaient mis en place un système de redevance. Donc, c'était des revenus substantiels pour ces mairies-là. Donc, quand nous, on vient sur le terrain, on veut parler, ça crée un certain désarroi parce que, bon, nos communes ne sont pas aussi riches que cela et c'est une source de revenus que perdent ces communes.
En tout cas, les collectivités sont représentées au sein des agences. Vous l'avez dit, vous êtes une structure de gestion intégrée, de concertation où tous les départements sectoriels sont représentés. Comment vous arrivez à organiser tous ces membres-là?
Il faut savoir qu'une agence de l'eau a une structuration particulière. Il y a d'abord le statut. L'agence de l'eau est un groupement d'intérêt public créé, comme M. Ouedraogo l'a dit, par la signature d'une convention constitutive entre l'État et certaines collectivités territoriales. Donc déjà, ça fait une différence. Deuxièmement, la structuration fait de telle sorte que l'ensemble des usagers est représenté au niveau de l'agence de l'eau. Parce que l'agence de l'eau a quatre organes et instances différentes. Vous avez le comité de bassin, vous avez le conseil d'administration, vous avez la direction générale et vous avez les clés, les comités locaux de l'eau. Ce sont ces quatre ensembles-là qui constituent l'agence de l'eau.
Monsieur Ouedraogo, on a parlé de la structuration, on a parlé du comité des bassins, le conseil d'administration, la direction générale, les comités locaux de l'eau. Alors, on sait que le conseil d'administration pour toute structure, pour toute entreprise, c'est l'organe de décision. La direction générale est chargée de la mise en œuvre de ces décisions. Comité locaux de l'eau, qu'est-ce que c'est d'abord?
Le comité locaux de l'eau, c'est un organe au niveau local, comme son nom l'indique. Il faut dire que le comité local de l'eau est vraiment le maillon de base pour la mise en œuvre de l'agir au niveau d'une agence de l'eau. En réalité, c'est à travers les comités locaux de l'eau que l'agence de l'eau réagit concrètement sur le terrain en matière de protection et de conservation des ressources en eau.
Est-ce que ça veut dire que c'est les populations riveraines à ces bassins-là qui constituent le comité local de l'eau?
La composition d'un comité local de l'eau, c'est à l'image du comité de bassin. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des acteurs qui sont au niveau local sont également représentés au niveau du comité local de l'eau. Donc, dans le comité local de l'eau, on a l'ensemble des usagers riverains autour des cours d'eau ou des retenues d'eau qui existent dans son espace défini. Il y a les représentants des services techniques déconcentrés de l'administration. Pour l'instant, on n'a que trois comités locaux de l'eau qui existent dans notre espace. Il y a le comité local de l'eau de la Tapoa. Il y a également le comité local de l'eau de la Sirva, appelé Clé qui Sirva. Et il y a également les clés Bascouré. Ce sont les trois clés présentement qui existent au niveau de l'espace de compétence de notre agence.
Apparemment, monsieur le directeur général a un complément.
Oui, il faut dire que nous avons trois clés, comme il l'a dit, pour le moment. Mais en réalité, selon les dispositions de la loi, nous avons un seul clé, puisqu'un clé doit être mis dans un sous-bassin. Voilà. Et c'est le clé Q-Sirva qui est un clé qui répond à ce critère-là. Le clé Tapoa et le clé Bascouré ont été mis en place autour de retenues d'eau, de barrages particulièrement. C'est vrai que ça ne répondait pas aux dispositions de la loi, mais comme on le dit souvent, l'agir, c'est un processus. Il fallait d'abord commencer par là pour commencer à sensibiliser l'opinion par rapport à ces structures-là. Et c'est ce qui nous a permis de passer au niveau des clés sous-bassins.
Je vais rester avec vous pour continuer de parler des comités locaux de gestion. Déjà, vous en avez trois. Maintenant, quelles sont leurs attributions?
Un certain nombre d'attributions qui sont données au niveau des comités locaux de l'eau. La première et la plus importante, c'est assurer la protection et la restauration de la ressource en eau. La deuxième attribution permet aux clés de donner un avis sur les projets qui ont lieu sur son espace de compétence. Ensuite, le clé peut mobiliser des fonds auprès de ses membres et de ses partenaires. Et également, attribution importante, le clé peut contribuer à l'arbitrage des conflits d'usage. Là, c'est une attribution qui est très importante parce que, comme on le sait tous, avec les changements climatiques, avec la péjoration climatique, l'eau est de plus en plus rare. Donc, on observe une pression de plus en plus grande autour des points d'eau, autour de la ressource en eau, qui génère de plus en plus de conflits. Il n'y a pas d'administration années où on ne parle pas de conflits autour d'une retenue, des bœufs qui sont venus gâter des cultures, voilà, ce genre de choses. Et le clé a un grand rôle là-dedans. Et de par le passé, nous avons vu des clés qui ont contribué efficacement à résoudre des conflits.
L'agence de l'eau de Gourma s'étend sur 5 régions, mais on l'appelle quand même Gourma. Est-ce c'est parce que la région de l'Est abrite le siège?
En réalité, le nom de l'agence n'a rien à voir avec la région de l'Est. C'est vrai qu'il y a une province qui s'appelle Gourma, mais ce n'est pas à cause de l'appartenance exclusive de l'agence à cette province-là qu'on a donné ce nom. Parce que, comme mon collègue l'a dit, nous sommes à cheval sur 5 régions, sur près de 50 231 km². Je pense que ce qui a prévalu au choix du nom Gourma, c'est d'abord la notoriété. Sinon, ce n'est pas exclusif ni à la province de Gourma, ni à la région de l'Est.
Fada Gourma abrite quand même le siège.
Oui, Fada abrite le siège de l'agence et il est dit que le siège peut être transféré sur n'importe quelle portion de notre espace de compétence sur décision du comité.
On a parlé de vos missions, on a parlé de votre objectif pour l'atteinte des résultats escomptés. Quel est le profil du personnel que vous avez?
Ok, le profil technique du personnel d'une agence est très intéressant parce que pour faire de la gestion concertée et intégrée des ressources en eau, il faut avoir plusieurs profils techniques. Pour cela, vous avez d'abord les techniciens de l'eau. Les ingénieurs, les techniciens supérieurs de tous les métiers de l'eau, des hydrauliciens, des hydrologues, des ingénieurs du génie rural. Ensuite, sur ces profils de base des spécialistes du métier de l'eau, là, vous avez un certain nombre de profils qui sont indispensables à la gestion de la ressource en eau, qui étaient occultés de par le passé. Par exemple, des sociologues. Il faut des sociologues pour gérer la ressource en eau parce que l'eau, avant tout, est une ressource hautement sociale. Vous avez des géologues qui sont là. Nous sommes sur un espace de 50 231 km². Pour maîtriser cet espace-là, il faut maîtriser la cartographie de l'espace. Donc, nous avons des spécialistes en sigle. Nous avons également des communicateurs au sein des agences. Parce que pour que les gens comprennent ce que vous faites, pour que le message passe, il faut être capable de communiquer. Donc, ce sont les principaux profils qu'on a au niveau d'une agence. Bien sûr, les socio-économistes qui sont un peu transversaux. Et j'allais oublier un point important, les spécialistes de la loi. Parce que tout ce que nous faisons, c'est sur la base des textes législatifs. D'où peut provenir ce monde-là? Il peut provenir de plusieurs horizons. L'État nous met à disposition des agents. Par exemple, nous, actuellement, principalement au niveau de l'agence de l'eau du Gourma, nous sommes tous des fonctionnaires. Le personnel peut également provenir des collectivités territoriales. Et nous avons des gens que nous pouvons recruter nous-mêmes. Mais il faut dire que tout ce monde-là est régi par le régime juridique qui est applicable aux établissements publics.
Monsieur Ousseini Ouedraogo, vous êtes technicien supérieur en hydrologie. Sur le terrain, concrètement, qu'est-ce que vous faites?
Pour mieux gérer, comme le DG l'a bien dit auparavant, il faut connaître votre ressource en eau. La quantité d'abord et ensuite la qualité. Le suivi quantitatif des ressources en eau, c'est le travail des hydrologues.
DG, vous avez dit que vous êtes un établissement public de l'État. D'office, l'impression que ça relève du ministère des Ressources à l'UETI.
Pas vraiment. C'est là aussi un point particulier. Et nous avons une double tutelle. C'est-à-dire que la tutelle technique est assurée par le ministère en charge de l'eau et la tutelle financière est assurée par le ministère en charge des finances.
Ce n'est pas plutôt un inconvénient quand on connaît la lourdeur administrative avec les dossiers?
Non, parce que notre statut de GIP nous donne une autonomie de fonctionnement. Tout ce qu'il y a comme décision à prendre est pris selon le principe de subsidiarité. C'est un principe de la gestion intégrée des ressources en eau qui dit que pour toute action, c'est le niveau le plus bas et le plus efficace qui doit être choisi. C'est-à-dire si nous voulons par exemple faire une action, ce n'est plus cette fois-ci le ministère de l'eau qui doit décider de ce qui va se faire ici, mais c'est le comité de bassin qui va décider de ce qui doit se faire sur notre espace de compétence. Tous les membres du comité de bassin sont localement présents. Ça nous rend le travail plus facile.
Depuis que nous parlons en matière de revenus, vous n'avez parlé que de préleveurs payeurs. Alors, d'où viennent vos ressources?
Pour le moment, le principe de préleveurs payeurs connaît des difficultés d'application. Parce que c'est comme je l'ai déjà dit, c'est un changement de mentalité qui n'est pas évident. Et comme nous nous inscrivons dans la dynamique d'un processus, nous sommes toujours au stade de sensibilisation des éventuels contribuables à ce principe-là. Mais en attendant, c'est l'État, c'est la volonté du gouvernement qui a créé ces agences de l'eau-là. Donc l'État a pris ses responsabilités et assure actuellement le fonctionnement des agences de l'eau.
En tant qu'établissement public, vous pouvez aussi bénéficier des dons, des legs.
Oui, il faut dire que outre ce financement public direct-là, nous avons également la capacité de vivre des produits d'emprunt. Également, nous pouvons bénéficier de dons et de legs. Mais il faut dire que le comité de bassin peut décider de n'importe quelle source de financement.
Monsieur Ouedraogo, vous êtes agent de terrain. Qui parle de terrain, parle de difficultés.
Au stade actuel, les difficultés qu'on rencontre, d'abord, bon, nous, les techniciens qui sont dit, c'est pas tous qui sont de la région. Donc, il y a d'abord la connaissance même du milieu. Souvent, les dialogues, c'est pas souvent facile
la langue.
Il y a en plus de ça, comme vous l'avez bien dit au début, l'agence est une structure jeune. On a des problèmes de logistique et d'infrastructure.
Alors, monsieur le directeur général, vous êtes l'organe qui doit apporter des solutions à toutes ces difficultés. Vous avez écouté. Qu'est-ce qui est fait pour améliorer le travail des agents sur le terrain?
Avant de parler de ce qui est fait pour améliorer le travail, je voudrais ajouter une difficulté qui ne semble pas être une difficulté, mais quand même, ce qui est un handicap, c'est la visibilité même de l'agence dans le paysage institutionnel local. Non seulement la visibilité, mais aussi la lisibilité. Parce que l'agence de l'eau est une structure nouvelle dans notre paysage. Donc, pour nous situer par rapport aux acteurs classiques, c'est pas évident. Les gens nous confondent. Souvent, quand on part parler des ressources en eau, certains se posent la question, mais pourquoi vous parlez de l'eau? Où est l'ONEA? Ils n'arrivent pas encore à donner à chacun sa place.
Ça m'amène à vous interrompre. Celui qui veut attraper l'agence de l'eau de Gourma, c'est où il doit se rendre?
Ça, c'est la difficulté logistique, comme mon collègue l'a dit.
Ouais.
Nous avons déménagé à Fada en décembre 2013. Donc, nous n'avons pas encore de locaux dans la ville de Fada. C'est vrai que nous avons eu un terrain. La mairie a voulu généreusement nous attribuer un terrain au secteur 9. Mais pour le moment, nous sommes logés à la direction régionale de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. Donc, nous partageons les locaux avec cette direction régionale-là. Nous les remercions déjà même pour ce sacrifice qu'ils ont consenti là.
Qu'est-ce que vous faites en tant qu'organe exécutif pour faciliter le travail des agents sur le terrain?
Le peu que nous avons, nous devons rationnellement l'utiliser d'une manière efficace pour que tout se déroule très bien. Deuxième chose que nous faisons pour vraiment améliorer nos conditions de travail, c'est la recherche de partenariats. Parce que vous savez, la gestion intégrée des ressources en eau, la gestion par bassin hydrographique n'est pas une innovation du Burkina. C'est une approche qui se faisait depuis près de 600, 700 ans dans certains pays. Par exemple, la Hollande. Voilà. Et ils sont très expérimentés là-dedans. Donc, nous sommes en train de nouer des partenariats avec des agences qui sont très expérimentées dans le domaine, qui vont nous apporter leur savoir-faire pour nous aider à être efficaces.
Est-ce que au-delà de cette difficulté logistique et de manque de personnel, l'agence a d'autres types de difficultés?
Non. En dehors de ces problèmes, c'est, je dois dire, des problèmes classiques, voilà, de toute structure publique au Burkina, nous n'avons pas de problèmes particuliers. Au contraire, nous sommes contents parce que chaque fois que nous rencontrons les populations, chaque fois que nous rencontrons les usagers, nous sentons une soif d'action sur le terrain. Un besoin même de cette agence-là.
On voit que vous avez beaucoup de choses en perspective.
Ah là, nos perspectives sont énormes, je dirais gigantesques. Voilà, à la hauteur de nos ambitions pour les ressources en eau de notre pays. La plus grande perspective que nous avons, si on les hiérarchise, c'est l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau. Comme je l'ai tantôt dit, c'est à travers ce schéma-là qu'on va planifier la gestion des ressources en eau pour les 10 à 15 prochaines années à venir. Et dans ce cadre-là, nous avons déjà élaboré les termes de référence de cette grande étude-là qui va commencer probablement l'année prochaine. Deuxième perspective, c'est la structuration même de notre espace. Nous n'avons que 3 comités locaux de l'eau, à la limite même un seul comité local de l'eau. Donc, il nous faut organiser davantage les usagers à la base. La principale perspective, c'est qu'on va installer en 2000, courant 2014-15, des comités locaux de l'eau autour du plus grand barrage du Burkina, la plus grande retenue, qui est
la Kompianga.
Également, perspective, c'est continuer à développer le partenariat parce qu'on ne peut rien faire dans les règles de l'art. sans nous inspirer de ce qui se fait ailleurs. De bien, donc, nous avons des partenaires qui seront là. Les choses, quand même, semblent être bien engagées avec les Hollandais. Nous allons signer la convention courant J. Comme dernière perspective, nous allons continuer à travailler à l'amélioration de l'image, de la visibilité même de l'agence. Il faut qu'on travaille pour que l'agence s'intègre à son milieu. L'agence veut faire la gestion intégrée, mais il faut que l'agence également soit intégrée par l'ensemble des acteurs dans son milieu.
Je rappelle que vous êtes Ghislain Anselme Kabouré, le directeur général de l'agence de l'eau de Gourmand. Vous êtes ingénieur hydraulicien. Ce matin, vous vous êtes fait accompagner par M. Ousseni Ouedraogo, technicien supérieur en hydrologie. Mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter. C'était Découverte. Ce matin, c'est l'agence de l'eau de Gourmand qui est passée nous voir. À la prochaine.